Bon alors bonjour et bienvenue. Alors pour entendre parler d'extraterrestres, j'ai mis aux grands enfants parce que j'imaginais qu'il n'y avait pas que des enfants dans la salle quand même, donc ça s'adresse un peu à tout le monde. Il y a peut-être des choses qui vont dépasser les plus jeunes enfants, mais il y aura pas, normalement ça ne devrait pas vous écrabouiller de science. Hein. L'idée c'est de voir un peu ce que l'on... de discuter un peu ce que l'on voit dans les films de science-fiction sur les extraterrestres et puis de se faire une idée, c'est est-ce que ce sont des extraterrestres plausibles ou pas. Bon, d'abord, comme en préliminaire, je le dis pour tous les jeunes gens, surtout les adultes peut-être le savent déjà, les jeunes gens aussi probablement, on ne sait pas s'il existe des extraterrestres, hein, évidemment. On n'en a pas détecté, on n'en a jamais vu, jamais croisé, jamais discuté avec. Enfin, on ne sait pas s'il existe une vie en dehors de la Terre. Alors, ce que l'on voit dans les films de science-fiction, dans les œuvres de science-fiction, sont bien sûr des choses qui sont... là pour faire rêver, pour divertir, pour provoquer notre imaginaire d'une certaine façon. Et ce sont des choses qui sont faites par des humains. Donc ça ne représente évidemment en aucun cas un extraterrestre réel. Là on voit, vous l'avez reconnu, j'imagine celui-là. Tout le monde le connaît, cet extraterrestre. Tu le connais toi? Super. Est-il extraterrestre? Alors celui-là, vous voyez qu'il est... on voit bien qu'il n'est pas humain. À quoi on voit est-ce qu'il n'est pas humain celui-là? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire, des enfants qui veulent dire, à quoi on voit qu'il n'est pas humain cet extraterrestre, qu'il n'est pas de la Terre? Qu'est-ce qui vous paraît Dis-moi. Il n'a pas de cheveux. Ah oui, exactement, il n'a pas de cheveux. Très bien. Quoi d'autre encore nous paraît un peu bizarre pour nous? Il y a des humains qui n'ont pas de cheveux aussi. Hein? Sans vouloir critiquer. Enfin, si je suis un extraterrestre, en fait, j'enlève mon masque. Dis-moi, jeune homme. Il a quoi? Il est violet ou il a une drôle de couleur, effectivement. Est-ce que vous avez remarqué le nombre de doigts qu'il a E.T. Il a quatre doigts. Vous connaissez d'autres personnages qui ont quatre doigts? Mickey, exactement. Bon, les grands, ils répondent après les petits. Hein. Ils sont savants, les grands. Ils ont envie de répondre aussi. Finalement, c'est motivant pour les grands aussi. Pour ça, j'ai précisé pour les grands enfants aussi. Hein. On voit que ça marche bien. Donc, il a quatre doigts. Il a quatre doigts, mais vous avez remarqué comment ils sont, ces doigts? Est-ce qu'il a quatre doigts comme ça? Ou quatre doigts comme ça? C'est pas pareil, quatre doigts comme ça. Et quatre doigts comme ça, où il en manque le petit doigt. Parce que vous avez remarqué, avec quatre doigts comme ça, j'ai encore un pouce. Et à quoi il sert le pouce? À quoi il sert votre pouce? À attraper? Imagine que tu n'as pas de pouce. Imaginez que vous n'ayez pas de pouce. C'est embêtant, ça arrive. Il y a des gens dans des accidents, ils perdent leur pouce. Imaginez que vous n'ayez pas de pouce. Comment vous faites pour essayer d'attraper quelque chose sans le pouce? De saisir, on peut y arriver. Ce n'est pas super pratique. Hein. On peut y arriver un peu. Mais avec le pouce, regardez, on peut faire un système qu'on appelle une pince comme ça. On peut faire comme un genre de pince. Et c'est très pratique. Regardez comment je tiens mon micro. Avec seulement deux doigts, je peux tenir le micro. Si j'ai pas de pouce, il faut que je prenne pratiquement tous les autres doigts. Enfin, c'est plus compliqué. Ou deux doigts, ouais, c'est pas facile, quoi. Mais avec deux doigts, seulement très facile pour tenir le micro. Le pouce et un doigt en face pour faire une pince. Et vous avez remarqué, ben, il a le quatrième doigt. Regardez, il a un pouce ici. Hein. Il a un pouce, on le voit. Il a un pouce et puis il a d'autres doigts. Alors, vous remarquez aussi qu'il a un visage un peu curieux. Mais il est comme nous, il a un visage très plat. Nous, on a un visage qui est très plat. Tout est dans le plan à peu près, avec les yeux, le nez, la bouche dans le même plan. Si vous regardez les singes, par exemple, ils ont un museau plus en avant, un visage plus en avant. Et les hommes, les australopithèques, les hommes préhistoriques, certains êtres anciens, humains anciens, avaient un visage aussi qui était plus vers l'avant. Au fil de l'évolution, notre visage s'est aplati. Donc nous, il est un peu comme nous, il a un visage aplati. Et il a des grands yeux bleus. Alors ça, c'est un classique, on met des grands yeux bleus pour les extraterrestres gentils. Et puis les extraterrestres méchants, ils ont des petits yeux méchants en général. Vous verrez Alien, il a même presque pas d'yeux tout à l'heure. Donc là, les grands yeux bleus, c'est vraiment un truc d'humain. C'est pour nous dire, ah oui, il a des grands yeux bleus. En général, les gentils, ils ont des grands yeux bleus, ils sont blonds quand c'est des humains. Je sais pas pourquoi, hein. Les yeux marrons, chauves ou avec les cheveux bruns, ceux-là, ils sont pas clairs. Les gentils sont blonds avec des yeux bleus. C'est un truc d'humain, ça. C'est un biais fait par les réalisateurs humains pour nous faire comprendre que est-ce qu'il est gentil ou pas. Donc lui, avec ses grands yeux bleus, on sait que ça sera un gentil. Alors que pourtant, il a une peau un peu bizarre, il a un visage un peu bizarre, il a l'air un peu bizarre quand même. Hein. Mais on sait, il a quatre doigts, il a un truc brillant, il a un cou télescopique aussi. Mais on sait que ça sera un gentil à cause de ses grands yeux bleus. Alors que les méchants, bon. Alors ce que je vais vous montrer aussi. C'est que regardez, ça c'est des extraterrestres qui ont été dessinés au 19e siècle. C'est pas nous seulement qui avons au 20e siècle, ou vous qui êtes du 21e siècle, les plus jeunes d'entre vous qui êtes déjà du 21e siècle. Il y a des extraterrestres qui ont été représentés bien avant le 20e siècle. Alors regardez, ce sont des dessins. Alors ceux-là et celui-là sont des sélénites. Les sélénites, ce sont ceux qui habitent sur la Lune. On imaginait à l'époque qu'il pouvait y avoir des habitants sur la Lune. Évidemment, comme personne n'avait jamais été sur la Lune, ça coûtait pas cher de dire « Oh, il y a sûrement les habitants sur la Lune ». Maintenant qu'on y a été, on sait qu'il n'y a personne. Donc évidemment, les sélénites dans les œuvres de science-fiction, il n'y en a plus. Parce qu'on sait qu'il n'y a personne. Alors sur Mars aussi, il y a eu des martiens. Alors là, c'est les machines martiennes de Herbert Wells au 19e siècle qui ont attaqué la Terre. Alors là, c'est les machines des martiens. Les martiens sont à l'intérieur, ils sont en forme avec comme une sorte de poulpe et des tentacules. Et ils attaquent la Terre. Ça, c'est un saturnien très bizarre, il y a un nez bizarre. Et puis là, regardez, il y a encore plus bizarre, c'est une sorte d'être humain dont le corps est un tronc d'arbre. On appelait ça à l'époque des intraterrestres. On imaginait même qu'à l'intérieur de la Terre, il y avait comme une sorte de grand trou, de grand creux, à l'intérieur desquels il y avait d'autres êtres vivants, et on les dessinait comme ça. Évidemment, il n'y en a pas, la Terre, elle est pleine, elle est entièrement solide. Mais on pensait à l'époque qu'il pouvait peut-être y avoir des êtres vivants à l'intérieur de la Terre. Donc, vous voyez, on a placé des extraterrestres dans des endroits, enfin des extraterrestres, des êtres curieux, extraterrestres ou intraterrestres, quand ils sont à l'intérieur de la Terre, dans des tas d'endroits où on n'avait jamais été. Et on les a mis là parce que précisément, comme personne n'a jamais été là-bas, on pouvait en parler sans crainte d'être contredit. Et puis, au milieu du 20e siècle, il y a eu ces revues qu'on appelle des pulps en anglais, des revues qui étaient faites dans une pâte à papier de mauvaise qualité. Les feuilles étaient de mauvaise qualité. Vous en verrez, il y en a quelques-unes qui sont là, des pulps. Il y a une vitrine juste derrière dans l'exposition Amazing Science. Il y a quelques pulps qui sont là. Vous verrez un peu comment ça se présente. Et regardez les couvertures. Et dans ces couvertures, il y avait beaucoup d'êtres extraterrestres qui étaient représentés. Alors, regardez, il y a une espèce de... Ah, mais ça dépasse un peu. Il y a une espèce de créature poulpe. Là, il y a des martiens rouges. Là, il y a des martiens jaunes avec 6 membres. Regardez, ils ont 4 jambes et deux bras. Ils n'ont pas l'air agréables, ceux-là, on le voit assez bien. Ceux qui ne sont pas agréables, en général, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont soit des petits yeux méchants, ils ont des griffes, ils ont des dents, ils bavent, ils sont noirs, ils ont des formes d'araignées. Enfin, tous les trucs qu'on n'aime pas sur Terre. Les êtres vivants qu'on n'aime pas sur Terre, nous humains, sont les araignées, les insectes, les reptiles, genre les crocodiles ou les machins pas clairs, avec des carapaces, avec des griffes, avec des pointes, on n'aime pas trop ça. Donc on leur met souvent cette forme-là. Et puis là, c'est les martiens classiques, ceux-là, c'est les martiens verts. Hein, on imagine souvent les martiens sous une couleur verte. Ils n'ont pas toujours été verts, les martiens. On ne les a pas toujours présentés verts. Alors on sait non plus qu'il n'y a pas de martiens, enfin en tout cas, pas de martiens vivants actuellement. Et puis là, il y a souvent des espèces aussi comme ça, en forme de poulpe ou de bestioles comme ça. Donc ça, c'est toute une catégorie d'êtres, évidemment des êtres imaginaires qui ont peuplé ces pulps des années 1900, on va dire, autour des années 1950. Et puis il y a eu des séries, par exemple ce monsieur qui s'appelle Frank Paul, il a fait toute une série pour dessiner des êtres extraterrestres dans chaque planète du système solaire. Ici, imaginé pour Mercure, vous savez combien il y a de planètes dans le système solaire, évidemment? Vous savez combien il y en a? Vous les connaissez? Il y en a 8. Il y en a 8. Il y a Mercure, Vénus. Mercure, c'est la plus proche du Soleil. Mercure, Vénus, la Terre, la troisième planète du système solaire, tu les connais, toi? Après la Terre, il y a quoi? Ah, je t'entends pas bien. Il y a aussi une neuvième. Ah oui, alors la neuvième planète, c'était Pluton. Mais en 2006, on a décidé que Pluton, c'était plus tout à fait une planète. On appelait ça une planète naine. Et il y a huit planètes. Donc Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. 8 planètes. Il y a Pluton. Et puis Pluton est au-delà de Pluton. Il y a Pluton, Eris, Sedna, Kawar. Il y a plusieurs autres corps au-delà de Pluton. Pluton est au-delà, qu'on appelle des planètes naines. Alors, il y a 8 planètes, et à l'époque, pour chaque planète, alors ils avaient mis Pluton dans la liste. À l'époque, on classait Pluton encore dans les planètes. Et ils avaient, Frank Paul a dessiné, imaginé des êtres. Vous voyez, ça c'est l'homme de Vénus, voici la vie de Jupiter, etc. À chaque fois, en mettant en scène un humain, un explorateur humain et un extraterrestre qu'il rencontre sur chacune des planètes. Alors maintenant, on sait qu'il y a de la vie sur probablement aucune de ces planètes. Enfin, on sait. On s'en doute, on n'en est pas certain. Il se pourrait que sur les satellites glacés de Jupiter, les lunes glacées de Jupiter, par exemple sur Europe, ou plutôt sous la croûte glacée d'Europe, il y ait peut-être de la vie, on n'en sait rien. En tout cas, il y a des conditions favorables à la vie. Voilà comment on les représentait. Il n'y a pas dans cette liste-là, vous ne verrez pas Mars. Vous allez voir, je vais vous montrer le martien de l'époque, était assez intéressant. Alors, voilà des extraterrestres aussi de films, hein, vous les connaissez peut-être. Est-ce que vous connaissez celui-là déjà? C'est Superman, vous le connaissez? Alors Superman, c'est un extraterrestre, hein, puisqu'il vient de la planète Krypton, hein, donc c'est pas un humain. Il ressemble à un humain, mais c'est un extraterrestre. Alors celui-là, vous le connaissez? C'est Spock, ça, dans Star Trek. Il y a sa femme ou ça? Ah oui, il y a le bar de Madame Spock là-bas, c'est vrai, exactement. Merci Gilles. Merci Gilles. Et celui-là, vous le connaissez? Là, c'est un méchant, c'est Alien, alors il est vraiment méchant. Jabba dans Star Wars, le Rancor, alors on va en parler un peu du Rancor, s'associe à un être de Star Wars. Alors cet être-là, qui s'appelle Watu, il est assez curieux, il a une trompe, comment on appelle les proboscidiens, les éléphants, il y a des êtres avec des trompes, les éléphants de mer, par exemple, il a des ailes, et il arrive à voler avec ses petites ailes. Il a des trop petites ailes pour voler. On peut se rendre compte, alors je ne vous rentrerai pas dans les détails des calculs, mais on peut se rendre compte que Watu, malheureusement, il a des ailes trop petites pour pouvoir voler. Si on prenait un être humain et qu'on lui mettait des ailes, même on dit, on va lui mettre des grandes ailes, hein, tant qu'à faire, on ne va pas s'embêter. Il y a des super-héros. Il y a un super-héros qui s'appelle Angel, comme ça, qui a des grandes ailes. On peut montrer que les muscles humains ne sont pas assez développés, ils ne sont pas assez nombreux et puissants pour faire voler un oiseau, d'une certaine façon, ou un ange, comme un ange qui aurait des ailes. Donc un être humain avec des ailes, il n'est pas assez musclé pour voler. Donc ça ne marche pas. Alors la science, elle est un peu décevante, comme ça, on se dit, oh oui, mais vous allez voir, tout à l'heure, elle sera plus marrante. Elle a l'air un peu décevante, mais ça permet de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Parce que l'idée qu'il y a derrière ça, c'est est-ce qu'on peut imaginer un être extraterrestre plausible, quelque chose qui ressemble à un être raisonnable, pas je dessine un extraterrestre, puis voilà, je me débrouille, et puis il est sympa. Il est sympa parce qu'il est divertissant, parce que je me suis bien amusé à le dessiner ou à l'imaginer, mais ce n'est pas un être qu'on pourrait éventuellement croiser. Donc voilà ce qu'on va faire, nous, c'est essayer d'imaginer un être extraterrestre plausible. Alors regardez celui-là, regardez-le bien, et regardez là, vous voyez, c'est le même pratiquement. Enfin, j'ai l'impression que les gens dans Men in Black, ça c'est un des extraterrestres de Men in Black, j'ai l'impression qu'ils ont pris celui qui était dans le dessin ancien, dans les pulps. Alors, voilà, maintenant la question qu'on va se poser, c'est comment on construit un extraterrestre? Alors on peut faire comme ça, vous voyez, c'est une sorte de Lego. Alors là, ils ont mis une patte qui n'a pas l'air de coller avec la précédente. Enfin, ils ont fait comme une sorte de Lego. Et puis, ils prennent souvent une base, on va dire une base humanoïde. Ça veut dire qu'ils ressemblent aux humains avec une tête, un corps, deux bras, deux jambes. Hein. Il y a souvent ça chez l'extraterrestre de science-fiction, des êtres qui ressemblent d'une façon ou d'une autre aux humains. Parce que, ben voilà, c'est ça qui nous parle le plus, on le reconnaît. Et puis, quand on est au cinéma, quand on voit un être extraterrestre, on veut comprendre rapidement s'il est gentil ou pas, s'il est méchant ou pas, s'il a des émotions, s'il est en colère, s'il est content. On veut le comprendre rapidement. Et le fait que ça soit un humain, ça va nous aider à comprendre rapidement. Parce que imaginez un extraterrestre, par exemple, on va dire un extraterrestre qui a une forme, une petite boule avec des poils dessus, puis qui roule par terre pour se déplacer. Imaginons ça. Si vous voyez la petite boule rouler par terre, comment savoir si elle est contente, si elle est de mauvaise humeur, si elle vous fait la fête en arrivant, ou si au contraire, elle va vous bouffer? Ou si elle veut s'en aller, si elle s'ennuie. Comment savoir? C'est pas facile. C'est pas facile. Essayez de deviner l'humeur d'une plante, par exemple, pour faire l'idée. Les plantes sont des êtres vivants. Vous avez une plante chez vous, un rosier ou une petite plante verte. Comment savoir si elle est de bonne humeur? Comment on sait ça? C'est pas facile. Alors que si vous avez quelque chose qui ressemble à un animal que vous connaissez, un chat, un chien ou un humain, alors même s'il est bizarre, même s'il est différent, même si c'est E.T. l'extraterrestre, on peut avoir de l'empathie pour lui. On peut essayer de comprendre ce qui va se passer dans sa tête, même si c'est un être extraterrestre. Voilà pourquoi on a souvent des humanoïdes, même là, voilà, ça c'est un martien. C'est un martien de 1924 qui a été dessiné dans une revue qui s'appelle Science and Invention. C'était une revue de radioamateurs, une revue d'électriciens, d'électroniciens qui expliquaient un peu les merveilles de l'électricité. Et puis de temps en temps, il publiait des images ou il publiait des romans qui ne s'appelaient pas encore de la science-fiction mais qui allaient devenir ce qu'on appelle maintenant de la science-fiction. Et le rédacteur en chef de cette revue, c'est Hugo Gernsback, je dis ça pour les plus grands, qui est le fondateur de Amazing Science, qui était Amazing Stories, qui est le premier pulp de science-fiction à la fin des années 20. Donc voilà un martien. Alors je vais leur montrer une autre version de ce martien. Regardez celui-là. Ça, c'est le martien de la série tout à l'heure où il manquait, je voyais, les êtres de Vénus, de Jupiter, de Saturne, etc. Ça, c'est le martien de Frank Paul, donc de cet illustrateur des années 40. Et regardez ce martien. Moi, j'aimais ça quand j'étais petit. Il y avait le martien. Et à côté, il y a une page qui explique tout un tas de choses qu'on voit sur l'image. Quand j'étais petit, moi, j'adorais. Je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup. On voyait, par exemple, un grand vaisseau spatial dessiné avec, on le voyait en écorché, on voyait l'intérieur. Et puis, il y avait plein de flèches. Il y avait des numéros partout. Puis, il disait, voilà, là, c'est la soute. Là, c'est le moteur. Là, c'est le réacteur. Là, c'est la cabine. Là, c'est etc. Je ne sais pas si ça existe encore, ce genre de choses-là. Enfin, moi, j'adorais ces images. Et on voit là une. Alors, moi, je n'étais pas né à l'époque, hein, je vous rassure. Ou alors, j'aurais bien vieilli, on va dire. Et là, on explique chaque chose. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le A, là, ces espèces d'antennes, c'est ce qui permet à l'extraterrestre de faire de la télépathie. La télépathie, c'est la capacité de, au lieu de parler, là je vous parle comme ça, vous m'entendez par le son, mais si j'étais télépathe, ça serait ça, et vous m'entendriez dans votre, directement dans votre cerveau, j'émettrais je ne sais pas quoi, on ne sait pas le faire, hein, ça n'existe pas sur Terre malheureusement, et directement dans votre cerveau, j'émettrais quelque chose, et vous me comprendriez directement dans votre cerveau. Le débat serait comme ça. Mais vous m'entendriez dans votre cerveau, évidemment. Vous ne serez pas là à dire, mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il dit? Il faut qu'on attend comme des cons. D'accord? Donc, c'est ça la télépathie. Alors, les martiens, souvent, les extraterrestres, ont les dotes de pouvoirs un peu curieux qu'on ne trouve pas sur Terre, voire de pouvoirs impossibles sur Terre, enfin, qui n'existent pas sur Terre. Impossible, je ne sais pas, mais qui n'existent pas sur Terre. La télépathie. Ensuite, il a des très grandes oreilles. Ça, c'est parce que sur Mars, c'est un martien. Sur Mars, à l'époque, on savait qu'il y avait une atmosphère, sur Mars comme sur la Terre, une atmosphère qui est très ténue. Il y a la pression atmosphérique de Mars, elle est 160 fois moins grande que celle de la Terre. Il y a beaucoup moins d'air, d'une certaine façon. L'atmosphère de Mars, elle est beaucoup moins épaisse, beaucoup moins dense que celle qui est sur la Terre. Ce qui fait que le son s'y propage d'une façon ou d'une autre plus difficilement. Et donc, il a des grandes oreilles pour mieux capter le son. Mais vous voyez que l'argument, c'est pas « j'ai mis des grandes oreilles pour faire joli ». Pour faire comme Mickey ou comme un lapin bizarre. J'ai mis des grandes oreilles, Franck Paul nous raconte, j'ai mis des grandes oreilles parce que sur Mars, je pense que le son sera plus difficile à capter. Et comme sur Mars, on sait aussi qu'il fait beaucoup plus froid que sur Terre, la température sur Mars moyenne, elle est environ moins 60 degrés Celsius. Moins 60, donc très froid. Moyenne, ça veut dire que des fois, il fait jusqu'à moins 5 degrés, 0 degrés quand c'est vraiment en plein chaud. Plein été sous l'équateur, et ça descend jusqu'à moins 120 la température sur Mars, donc vraiment très froid. Alors comme c'est très froid, regardez les yeux et le nez, ils sont longs mais ils sont rétractiles, ils peuvent rentrer dans le corps pour les protéger. Quand il a besoin de voir ou de sentir, il les sort, et puis quand il fait froid, il les rentre. Donc il a des yeux télescopiques et un nez télescopique pour se protéger du froid. Et regardez aussi ses poumons, ils sont à la fois très développés, parce que l'air est très rare sur Mars, l'air est très ténu, et en même temps, ils sont couverts d'une espèce de pelage, de fourrure pour se protéger du froid. Ça, c'est ce qui est expliqué encore. Vous voyez, le D et le E, c'est ça que ça explique. Il a aussi regardé des ventouses aux pieds. Il ne marche pas avec des pieds comme nous, un peu rectangulaires, tout plats. Il a des espèces de ventouses parce que sur Mars, la gravité est plus faible que sur Terre. La gravité, c'est la force qui nous tire vers le centre de la Terre et qui nous colle à la surface de la Terre. Alors cette gravité, comme elle est plus faible, pour que l'extraterrestre puisse bien se déplacer, il a des ventouses. Il est bien collé au sol d'une certaine façon. Et puis, il a aussi des jambes très fines et puis il est assez grand, regardez, par rapport à l'être humain, il est beaucoup plus grand. Alors ça va être dans le sens de cet extraterrestre, il est beaucoup plus grand parce que la gravité de Mars est plus faible que celle de la Terre. Et qu'il peut être plus grand parce que la gravité est plus faible. Si j'avais un humain sur la Terre qui fait, mettons, 5 mètres de haut et qui tombe, il se brisera très facilement. Alors qu'un humain qui fait 1m75, s'il tombe, il se fera mal. Peut-être il se fera mal, peut-être il se cassera le bras, ça arrive aussi, ou la jambe, ça arrive. Mais en général, il sera pas mal. Alors qu'un humain de 5 mètres de haut, quelqu'un qui serait comme moi avec deux bras, deux jambes, une tête en haut, etc., qui ferait 5 mètres, s'il tombe, il a toutes les chances de se casser quelque chose. Et peut-être de se casser la tête, de se briser la tête, et donc de mourir peut-être. Donc les grands humains, un grand humain sur Terre, c'est la gravité de la Terre est trop intense et il pourrait se briser si facilement qu'il serait éliminé très rapidement. Donc ça limite, la gravité va limiter la taille des êtres vivants. On va le revoir tout à l'heure avec le rancor, on va parler du rancor de Star Wars. Et donc qu'il soit grand, c'est pas impossible. Ici, il a une espèce de réserve, là c'est le G qui est indiqué là. Il a une réserve d'eau, parce que sur Mars, il y a très peu d'eau liquide, donc il a une réserve d'eau. Et puis il a une espèce d'appareil dans les mains, c'est celui qu'on voit là, enfin une autre version de celui qu'on voit là. Ça c'est pour montrer que c'est un être qui a une technologie très développée, c'est une espèce d'épée atomique, et on appelait ça atomique à l'époque, hein, puisque dans les années 50, le nucléaire, l'énergie nucléaire, l'énergie qu'on appelle atomique aussi, mais qu'on aurait plutôt nucléaire, avec la bombe nucléaire, avec la guerre froide, etc., était très présente dans les œuvres de fiction. Et donc ce martien, il a une épée atomique. D'accord, ou un espèce de découpeur atomique. Donc vous voyez, tout cet être-là, il n'est pas construit au hasard, il est construit en essayant de le rendre raisonnable vis-à-vis des conditions martiennes. C'est ça qui est intéressant, c'est plus que du divertissement et de l'imaginaire pur, c'est aussi on va faire quelque chose qui rend compte ou qui soit adapté aux conditions martiennes. Même si on sait maintenant que sur Mars, il n'y a pas d'être vivant. Alors ça a déjà été tenté, là ce sont des dessins, des crayonnés de créatures qui ont été imaginées pour Discovery Channel et aussi avec National Geographic en 2005, dans des planètes qui n'existent pas, qu'on appelle Aurelia, qui est une planète qui tourne autour d'un soleil rouge, qui n'est pas comme le nôtre, un soleil jaune ou blanc plutôt, mais un petit soleil rouge. Et puis une autre lune qui s'appelle Blue Moon, qui est une petite lune habitable d'une planète géante qui tourne autour d'une étoile double, donc un peu comme dans Avatar. Vous avez vu Avatar, j'imagine. Dans Avatar, il y a Pandora, qui est un satellite de Polyphème, qui est la grosse planète Polyphème, la planète géante Polyphème, et Polyphème tourne autour de Alpha du Centaure, qui est en fait une étoile double. Bon, ben Blue Moon, c'est exactement ça. Et donc là, il y a des scientifiques, c'était pour faire un documentaire télévisé sur la vie extraterrestre, il y a des scientifiques qui se sont amusés à imaginer la forme que pourraient avoir des extraterrestres sur des planètes curieuses. Et ils ont essayé de faire ça le plus plausiblement possible. Alors par exemple, regardez le Mud Pod là, il a une espèce d'ongle très long. Vous voyez cet ongle très long, c'est pas pour faire joli, c'est parce qu'il se nourrit d'une plante et avec cet ongle très long, il va couper la plante et il peut la manger comme ça. D'accord ? Donc il a une espèce de système de sécateur, si j'ose dire, intégré à sa patte. Ils ont imaginé ça. Vous voyez, ils lui ont mis aussi trois pattes ici et trois de l'autre côté, il a six pattes. Ça, c'est un classique. Six membres, c'est un classique des extraterrestres, de mettre six membres pour faire un truc bizarre. Alors, on va maintenant regarder d'autres extraterrestres, on va les évoquer, et on va à chaque fois évoquer une loi de la physique ou une loi de la chimie, quelque chose qui permet de discuter de cette loi à la lumière d'un extraterrestre que je vais vous montrer à chaque fois. Donc voilà, ceux-là, ce sont des... Vous pouvez trouver, j'ai mis le lien, si je pourrais vous le donner en détail, si vous trouvez, même si vous faites Aurelia et Blue Moon Project sur Internet, sur Google, vous trouverez très rapidement des images comme ça. Mais il y a même un petit documentaire, enfin pas le documentaire complet, mais quelques minutes de film qui vous montre un peu comment c'était. Alors voilà, qui est pas... Lui, on voit qu'il est méchant, celui-là. On voit qu'il est méchant parce qu'il a des grosses griffes, il a des grosses dents, il a des petits yeux méchants, et puis il a des pointes, enfin voilà, il ressemble à une sorte de, je sais pas, de quelle bestiole sur Terre, mais il n'a pas l'air méchant. Alors, sa taille, il est très grand, celui-là. Je parle de celui-là parce qu'il est très grand. Vous voyez ce qu'il a mis là-dedans, vous vous rappelez dans le film, si vous l'avez vu, le film de Star Wars, là, il a une espèce d'os qui lui bloque, qui l'empêche d'avaler Luke Skywalker, parce qu'en fait, c'est Luke Skywalker pour qui ça chauffe dans le film. Et Luke Skywalker, il a récupéré un os d'une des victimes du Rancor, et il a mis l'os dans la bouche, et quand il prend l'os, il est presque aussi grand que lui. Hein. Donc, l'os qui est là, c'est quelque chose qui doit faire peut-être 1m50 ou 1m30 ou 1m50. Enfin, c'est un os qui est grand comme vous, les enfants. Là, hein. Donc, c'est-à-dire que le rancor, là, quand il ouvre la bouche, il peut vous avaler d'un coup. Hein. Donc c'est quand même une grosse bestiole. Hein. C'est une très grosse bestiole. Alors est-ce que les grosses bestioles, ça peut exister? Alors j'ai déjà donné un peu, quand je dis grosses, les grandes bestioles, très grandes bestioles, les hautes bestioles. Est-ce que ça peut exister? Sur Terre, c'est quoi l'animal le plus grand possible qu'on connaisse sur Terre actuellement? Sur Terre, hein, sur le sol, je vais dire. Dis-moi. Le... J'ai pas entendu à chaque fois. L'éléphant. Alors l'éléphant, oui, c'est le plus grand terrestre, effectivement. Mais est-ce que c'est le plus grand terrestre? Il fait 5 mètres de haut à peu près, l'éléphant, ou 4 mètres de haut. Est-ce qu'il y a eu des animaux plus grands que l'éléphant? Ou est-ce qu'il y en a des plus grands que l'éléphant, toujours, qui marchent sur le sol? Dis-moi. La girafe. Alors la girafe, elle a un cou qui monte plus haut que l'éléphant. Mais elle a l'air plus fine. Mais c'est vrai qu'elle a un cou qui monte plus haut que l'éléphant. Elle monte à plus de 5 mètres, la girafe. Absolument. Et est-ce que d'autres animaux que vous connaîtriez? Parmi ceux qui n'existent plus, ça c'est les plus grands qui existent, girafe et l'éléphant. Les dinosaures, exactement. Les dinosaures, il y a eu des dinosaures, les diplodocus, qu'on appelle les sauropodes en général, donc ces grands dinosaures herbivores, qui ont fait jusqu'à 15 mètres de hauteur et qui faisaient 40 mètres de long. Donc d'immenses êtres. Il faut imaginer ça qui passe. Hein. Si on met un sauropode là, il ne tient pas dans la place. Là. Enfin, en longueur, il ne tient pas là. Il tient dans le hall, mais pas dans cette zone-là. Donc c'est des êtres immenses qui ont existé sur Terre, dont on a des squelettes, des fossiles, qui montrent que ça a vraiment existé. Alors, on peut imaginer des êtres très grands sur Terre, comme ces sauropodes ou maintenant l'éléphant. Le rancor, il a l'air un peu grand. Vous voyez qu'avec, si ça fait 1m50 l'ouverture de sa bouche, il doit faire combien de haut? Combien vous diriez de haut pour le rancor, à votre avis? Ouais, c'est ça, 8 ou 10 mètres de haut, il a l'air comme ça. Hein. On peut regarder comment on fait pour savoir ça. Je lui dis ça pour les enfants, ben, si ça fait 1m50, on essaie de comparer. Là, ça doit faire 1m50 de là à là, puis encore 1m50, puis encore 1m50. Oui, il doit faire 4 ou 5 fois 1m50, cet être-là. Donc dans les 8 mètres, hein, 5 fois 1m50, ça fait 7m50. Donc il doit faire dans les 8 mètres de haut. Alors on ne peut pas imaginer, il y a un autre être que vous connaissez peut-être, ça s'appelle Godzilla, qu'on voit dans certains films en japonais. Et puis il y a un film américain où on voit Godzilla. Godzilla, il fait 20 ou 25 mètres de haut. Quand on le compare à Godzilla, il fait à peu près 7 ou 8 étages de haut. Hein. Un étage, c'est 3 mètres. 7 ou 8 étages de bâtiment, il arrive, il casse tout dans New York. Et donc il doit faire 24 ou 25 mètres de haut. Alors là, ça commence à être sacrément grand. Et puis le Godzilla des films japonais, il fait des fois jusqu'à 100 mètres de haut. Alors là, c'est vraiment grand, vraiment haut. Alors en fait, on peut se rendre compte que si on est très grand, on va être très fragile et on va probablement s'écrouler sur son propre poids. Ça, pour s'en rendre compte, c'est assez facile. Alors les petits vont peut-être pas tout suivre, mais l'idée, c'est que si vous êtes deux fois plus grand, vous n'êtes pas que deux fois plus grand. Vous êtes aussi deux fois plus épais et deux fois plus large. D'accord ? Si vous êtes deux fois plus grand, vous êtes aussi deux fois plus épais et deux fois plus large. Et votre volume, le volume, c'est la hauteur multipliée par l'épaisseur, multipliée par la largeur. Si vous êtes deux fois plus grand, vous êtes deux fois plus épais, deux fois plus large. Donc votre volume est limité par 2 × 2 × 2. Si vous êtes deux fois plus grand, votre volume est 8 fois plus grand. Et si votre volume est 8 fois plus grand, vous êtes aussi 8 fois plus massif. On fait des calculs, attention, ça rigole plus. Hein. On fait des maths maintenant. 8 fois plus massive. Ah ouais, là, attention, on n'est pas là juste pour dire, oh yeah, la science-fiction, c'est cool. Hein. Moi, je rigole pas. Donc 8 fois plus massif. Et si vous êtes 8 fois plus massif, vous avez donc une masse qui est plus importante. Votre poids, ce qui vous tire vers le centre de la Terre, c'est 8 fois plus fort. D'accord. Et en même temps, qu'est-ce qui vous empêche de vous écrouler minablement? Qu'est-ce qui fait que vous restez là, ah, comme ça, là, je reste et je résiste à la gravité? C'est quoi? C'est ton squelette, exactement. C'est à des os à l'intérieur. Nous, on n'est pas des limaces, on n'est pas des escargots, hein, ou des jabas comme dans Star Wars. On a un squelette, nous. On a un squelette. Et notre squelette, il nous empêche de nous écrouler. Ok. Mais ce squelette, c'est des os. Et qu'est-ce qui nous empêche? C'est que les os, ils sont. On appuie dessus. Imaginez, voilà, je vais prendre un os. Voilà un os. Bon, c'est un os un peu curieux. Hein, c'est la petite bouteille qui est là. Imaginez l'os. Eh bien, il y a quelque chose qui appuie sur l'os. Et le quelque chose, c'est ma masse et mon poids qui me tire et qui appuie sur l'os. Et ça appuie sur quoi? Sur la section de l'os, la surface de l'os. La surface de l'os, c'est ça. Hein, ça appuie là-dessus. Mais cette surface, quand j'ai multiplié ma taille par 2, elle est multipliée par combien? Je dis ça pour les grands. C'est une surface, elle est multipliée par 4 exactement, par 2 fois 2. Donc vous pesez 8 fois plus lourd et la section de l'os, elle est que 4 fois plus grande. Donc l'os, on appuie dessus 2 fois plus fort. Je résume pour les enfants. Si vous êtes 2 fois plus grand, vous êtes 2 fois plus fragile. Donc les grands, ton papa, il est beaucoup plus grand que toi, mais il est 2 fois plus fragile que toi. S'il tombe, il a une bonne chance de se casser. Bon, en général, il ne se cassera pas, évidemment. Que toi, si tu tombes, tu peux te casser aussi.